Le message qui va suivre vous est présenté par le Centre Christ en Action Évangélisation. Nous prions qu'à son écoute, votre vie sera transformée. Que le Seigneur vous bénisse.
Bienvenue au Centre Christ en Action. Nous sommes dans la joie de vous accueillir ce matin, ici, au sein de cette église internationale. Une église qui est composée de plusieurs nationalités. Nous sommes dans la joie de vous accueillir et de passer un bon temps dans la présence de Dieu. Je sais que le Seigneur qui vous a invité ici, il est fidèle. Vous n'êtes pas venu voir un homme, vous n'êtes pas venu voir un vedette, mais vous êtes venu entendre la voix de Dieu. Alors, dans quelques minutes, vous allez oublier la personne qui est devant vous et croyez que le Seigneur va déposer quelque chose dans ton cœur. Peu importe ce que tu traverses, vous savez, la Bible dit qu'il fait au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous demandons. Alors je tenais à vous le dire, préparez-vous ce matin, parce que certainement, le Dieu qui connaît ton présent, le Dieu qui connaît ton futur, il a quelque chose. Et à chaque moment qu'on vient dans sa présence, on ne retourne pas chez nous déçus. On reçoit toujours quelque chose. Et c'est pourquoi il faut veiller, afin que l'ennemi ne puisse pas te distraire. Parce que la distraction, c'est une des choses que l'ennemi utilise pour essayer de te priver de ce que Dieu veut déposer. Vous savez, Dieu a un plan pour toi de bonheur et non pas de malheur. Dieu connaît ton futur. Dieu t'a prédestiné. Dieu t'a choisi. Et il veut le meilleur pour toi. Dites à la personne à côté de toi, Dieu veut le meilleur pour toi. Dites à la personne à côté de toi, ne sois pas influencé par ce que tu vois. Mais sois influencé par ce que Dieu dit. Ah. Dites à la personne à côté de toi, peu importe ce que tes deux yeux voient, cela ne change pas l'accomplissement des prophéties de Dieu pour ta vie, pour ta maison. Dites à la personne à côté de toi, peu importe ce que tu sens, peu importe tes émotions, peu importe le sentiment, de toute façon, les sentiments mentent. Mais Dieu ne ment pas. As-tu compris ça, là? Tous les sentiments mentent. Mais Dieu ne ment pas. Alors, on peut lui faire confiance. Comme les sentiments, alors Dieu ne ment pas. Alléluia. Alléluia. Vous savez, depuis le dimanche passé, nous avons commencé un enseignement sur le travail. Dites le travail. Alors, je vais continuer parce que je vais l'arrêter le dimanche prochain. Nous sommes en train d'expliquer sur l'importance du travail dans le plan de Dieu. Quand je parle du travail, j'aimerais bien le donner, j'aimerais bien l'expliquer dans plusieurs volets. Parce que quand on parle du travail, on peut parler du travail d'une manière générale. Alors quand on parle du travail d'une manière générale, on voit seulement des gens qui se réveillent très tôt le matin, qui vont travailler. Ça, c'est un aspect. Parce que la Bible dit que celui qui ne travaille pas ne doit pas manger. Mais un autre aspect du travail, c'est que dans la vie spirituelle, quand tu ne travailles pas dans ton esprit, en fait, vous savez que même venir écouter la parole de Dieu, c'est une façon de travailler. Prier, c'est une façon de travailler. Il y a quelqu'un qui a dit, prier une heure, c'est travailler 8 heures. Parce que, frère, le résultat dans notre vie spirituelle dépend de comment tu travailles dans le domaine spirituel. Qui a compris ça? Ta croissance même dépend de quelle qualité de travail est-ce que tu donnes dans les dimensions spirituelles pour que tu croisses. Il n'y a pas de résultat sans travail. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de personnes doivent voir. Si dans le social, si dans le monde naturel, on doit travailler pour gagner ce qu'il faut, mais dans le monde spirituel aussi, Dieu nous demande d'être des travailleurs. Des travailleurs. Des personnes qui travaillent pour leur salut. La Bible dit, travaillez pour votre salut. La Bible dit, travaillez pour votre salut. Alors, si Dieu dit que le travail est très important, J'aimerais bien donner, je crois, cinq exemples de ce que Dieu parle à propos du travail. J'aimerais bien que nous voyions la parole de Dieu. Pourquoi? C'est parce que, j'avais dit, nous sommes au début de l'année. J'étais en train de dire la fois passée que cette année, nous aurons trois objectifs à atteindre. Les trois objectifs, c'est quoi? Premièrement, c'est la maturité. Deuxièmement, le service. Troisièmement, la croissance. Voici les trois objectifs que nous voulions atteindre cette année. Je vais commencer à le répéter et le répéter afin que ça reprenne la place à nous, afin que chaque chrétien sache qu'il doit s'identifier à ces trois objectifs. La maturité, ce qui veut dire Dieu veut que tu croisses spirituellement. Deuxièmement, Dieu veut que tu puisses les servir. Troisièmement, Dieu veut voir les âmes sauver la croissance. Ces trois choses, c'est ça auquel nous allons être soudés en 2010. Nous voulons voir des résultats de ces trois choses. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alors, j'aimerais bien que vous l'écriviez dans votre bloc-notes. Nos trois objectifs pour cette année. Dieu veut que je croisse spirituellement. Ça veut dire Dieu veut que je devienne mature. Deuxièmement, non seulement je veux avoir la maturité, mais Dieu veut que je sois utile, que je puisse lui servir dans n'importe quel domaine où Dieu va m'orienter. Troisième chose, nous voulons voir des hommes et des femmes s'ajouter dans l'église locale. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Ce matin, j'étais en train de parler sur quelque chose à la radio. Vous savez, un jour, la Bible dit qu'il y a un groupe de personnes qui est venu voir Jésus. Alors, il pose la question dans Luc chapitre 13. Il dit à Jésus, mais Jésus, nous sommes étonnés. Il y avait des gens qui donnaient des sacrifices à Dieu et Pilate a envoyé des gens pour les tuer. Et vous savez, Jésus, ce qui s'est passé, on les a tués au moment où ils donnaient leurs sacrifices. Ils donnaient des sacrifices à Dieu. Pilate envoie quelqu'un pour les tuer. On les a tués, on a mélangé leur sang avec les animaux auxquels ils donnaient des sacrifices. Et dit, Seigneur Jésus, mais c'est absurde parce qu'ils étaient en train de servir Dieu. Pourquoi telle chose les a arrivées? Jésus qui s'est resté calme. Ils ajoutent encore. Elle dit, Seigneur, mais est-ce que tu comprends? Et deuxièmement, il y a un autre événement qui a eu. Il y a eu des gens, la Bible dit que le tour de Siloé s'est écroulé sur eux. Ces deux exemples, regarde, Jésus reste calme, il leur dit. Il dit ceci, croyez-vous que ces foules de personnes-là auxquelles on a mélangé leur sang avec leur sacrifice par Pilate, croyez-vous que ce qui leur est arrivé, c'est parce qu'ils ont péché d'une manière incroyable? Il dit encore, croyez-vous que ce groupe de personnes auxquelles le tour s'est écroulé sur eux, croyez-vous que leur péché était tellement abominable qu'ils ont reçu ça? Jésus-Christ les regarde et dit, vous avez compris? Mais maintenant, je vous le dis, en vérité, si vous aussi, vous ne vous repentez pas, vous périrez exactement. Vous voyez la réponse que Jésus les a donnée. Si vous aussi, vous ne vous repentez pas, vous périrez. Si vous aussi, vous ne mettez pas votre vie en règle, tout peut vous arriver. Mais le problème, j'avais conclu ce matin, je disais, le problème, ce n'est pas ce qui arrive, comment on peut mourir. Mais le problème, c'est que est-ce que es-tu prêt de te présenter devant Dieu? Parce que Amos, dans la Bible, dans le livre d'Amos, la Bible dit, l'homme doit se préparer à la rencontre de son Dieu. C'est-à-dire, chacun de nous est appelé à se préparer à la rencontre. Mais la question, est-ce que toi, tu es prêt à rencontrer Dieu? C'est ça. Ce n'est pas la façon dont on termine la vie. Ce n'est pas la façon dont nous mourons. Non, ce qui compte, c'est est-ce que toi, tu es prêt de rencontrer Dieu? Parce que c'est là où se trouve la question. Les gens sont en train de dire tout, 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 tout. Les gens disent tout, tout. Mais de toute façon, partout, les gens meurent. Les gens meurent partout. Le nombre de personnes qui meurent partout par jour, frères et sœurs, on n'a pas à condamner qui que soit. Parce que les hôpitaux sont remplis. Et chaque jour, il y a des gens qui meurent. Et frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Ce qui compte, c'est d'être prêt. Parce que tôt ou tard, la mort tapera à la porte. Et quand la mort va frapper, les gens peuvent dire, comme je le disais la fois passée, les gens peuvent dire, nous ici, on est exempt, on est bien. Oh, tu te trompes, mon ami. Tu te trompes. Détrompe-toi. 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 La vraie sécurité, c'est seulement de savoir que nous sommes entre sa main, entre ses mains. Que tout peut arriver, mais au moins nous entrons dans l'éternité. Quelqu'un peut dire amen. Voici notre vraie sécurité. Parce que même les assurances ne peuvent pas nous assurer devant la mort. Ah, les assurances, il y a d'autres, ils vont prendre, mais pour la terre. Mais il faut être assuré que si cela m'arrive, j'entre dans l'éternité et là, je vais vivre éternellement. Quelqu'un peut dire amen. C'est pourquoi ce matin, avant de terminer mon message, quand je vais commencer, je vais vous demander, si vous êtes dans cette salle, mais toi, tu n'as jamais pris une décision de mettre ta vie en règle. Tu n'as jamais demandé à Jésus de prendre la place dans ta vie. Tu ne lui as jamais cédé la place. Tu ne lui as jamais donné la première place. Ce matin, avant de quitter cet endroit, tu pourras dire, oh Jésus, j'ai dirigé ma vie personnellement, mais maintenant j'aimerais bien te recevoir dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. En ce moment-là, tu entres dans la vraie assurance de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Vous savez, je suis un sentinelle, je suis un sentinelle. Et je dois avertir, je dois faire mon œuvre d'un sentinelle. Je dois avertir parce que je rendrai compte à Dieu. Et je le dis et je le répète à chaque moment, je suis ici là. Si je suis ici, c'est pour que j'aide les gens à entrer dans le royaume de Dieu. Voici le pourquoi je vous prêche. Je veux vous prêcher sur tout. Je veux vous prêcher sur l'amour de Dieu. Je veux vous prêcher sur la prospérité. Je veux vous prêcher, je peux vous prêcher sur la guérison divine. Je peux toucher tous les sujets possibles. Mes frères et sœurs, le pourquoi même que je suis ici, le pourquoi que Dieu m'a sauvé, le pourquoi que Dieu m'a choisi, c'est pour que j'explique aux gens la réalité de la vie éternelle. Parce que la prospérité, on peut les laisser. Parmi ceux qui sont morts, il y avait d'autres qui ont laissé des millions. Ah! Vous savez, quand les gens pensent que seulement les millions, vous savez combien de personnes qui laissent les millions? Mais, quelle est ta position devant Dieu? Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, je vous en supplie, ce matin, ne sortez pas de cet endroit sans prendre une décision de donner ta vie à Jésus. Quelqu'un peut dire amen. Alors, à propos de notre grand sujet auquel nous sommes en train de parler, je vais foncer rapidement. Premièrement, Dieu lui-même, c'est un travailleur. Dites avec moi, Dieu lui-même, c'est un travailleur. Si nous lisons dans Genèse chapitre 1, verset 1, dans Genèse chapitre 1, verset 1, je vais aller vite moi-même. Le chapitre 1, en fait, je veux dire que le chapitre 1, la Bible dit au commencement, Dieu créait les cieux et la terre. La terre était informe, disons tous informe. La terre était informe et vide. Il y avait de ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit. Vous voyez, j'aimerais bien m'arrêter seulement là. Le premier livre de la Bible, Genèse, la Bible dit que la terre était chaos. La terre était sans forme. La terre était sans forme. La terre n'avait pas de forme. Et la Bible dit que Dieu a commencé à donner la forme à la terre. Hello? Dieu commençait à parler. Au fur et à mesure, il parlait. Au fur et à mesure, Dieu travaillait. La terre commençait à prendre quoi? La forme. Qui est là? Qui est là? La Bible dit que la terre était sans forme. Quand on dit sans forme, ça veut dire sans forme. Et comme la terre était sans forme, il a fallu que quelqu'un lui donne la forme. Et Dieu a commencé à travailler. Frères et sœurs, Dieu n'est pas un fainéant. Dieu est un travailleur. Qui est là? Amen. Dieu est un travailleur. Dieu n'a jamais été un fainéant. Dieu est un bosseur. Tu te rends compte, il a travaillé 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Ça veut dire que le travail est important et le repos aussi est important. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Mais l'image que j'aimerais vous donner, parce que frères et sœurs, le résultat que nous voulons atteindre, que ce soit dans le domaine spirituel, que ce soit dans la croissance de l'Église, va exiger un niveau de travail. Là où il n'y a pas de travail, n'attendez pas à des résultats. Frères et sœurs, je vais vous donner un paquet de versets pendant ces 30 minutes-là. Je vais vous donner des versets qui montrent l'importance du travail dans chaque domaine. Dans chaque domaine. Dieu a travaillé pendant 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé. Et la Bible dit que quand il a regardé tout ce qu'il a fait, la Bible dit que tout était parfait. Ça veut dire que Dieu n'est pas quelqu'un qui travaille d'une manière, d'une autre, qui travaille n'importe comment et puis produit des résultats comme ci, comme ça. Dieu, c'est un Dieu d'excellence. Quelqu'un peut dire amen. L'excellence, c'est dans la nature de Dieu. Et la Bible dit, tel qu'il est, tel nous devons être. Dieu veut que ce niveau d'excellence puisse prendre la place dans nos vies. Quand nous travaillons, nous devons être sûrs que nous donnons l'excellence. La première personne que nous avons vue qui est un grand travailleur, c'est Dieu. Tournez la page. Nous voyons l'homme maintenant. L'homme avant l'arrivée du péché. Nous voyons maintenant l'homme avant que le péché arrive. L'homme a été toujours un travailleur. Si nous vous regardez dans Genèse chapitre 2, verset 15. Genèse chapitre 2, verset 15. Hallelujah. Genèse 2, 15. La Bible dit ceci. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin, quoi? D'Éden pour le cultiver et pour le garder. Nous voyons ici des travaux que l'homme faisait dans le jardin d'Éden. Avant que le péché entre dans le jardin d'Éden, nous venons de lire que l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. La Bible dit ça, c'était avant que le péché arrive. Avant que le péché entre, l'homme avait deux services qu'il faisait. Premièrement, il cultivait le jardin d'Éden et il gardait le jardin d'Éden. Des travaux. Ça veut dire que l'homme, les gens peuvent dire, oh non, le travail, c'est le fruit de la malédiction. Les gens disent, oh non, le travail est venu lors de la malédiction. Non. Attends, avant que le péché entre dans le jardin d'Éden, la Bible dit que l'homme travaillait, il cultivait la terre. Et deuxièmement, il veillait sur le jardin. Qui est là? J'ai déjà fait le cas. J'ai été gardien à Paris. Je devrais payer mes études. J'ai gardé les entrepôts de RATP. Les amis, il faut travailler la nuit au Seigneur. Il y a des moments où je dormais. Être gardien, ça veut dire prendre soin. Voyez-vous, ça veut dire ce que ça veut dire. L'homme cultivait le jardin d'Éden. Par là, nous voyons que Dieu n'a pas laissé l'homme dans le jardin d'Éden pour qu'il soit un croiseur de bras. Est-ce que vous êtes là? Oui. Dieu n'a pas mis Adam et Ève dans le jardin d'Éden tout simplement pour dormir, ronfler, crou-crou, cra-cra, et puis ainsi de suite. Dieu les a mis dans le jardin d'Éden, mais pour qu'ils puissent travailler. Pourquoi? C'est parce que Dieu lui-même, c'est un travailleur. Oui. Dieu dit, travaillez la terre, cultivez. Vous savez, alléluia, il y a ce que Dieu peut faire, il y a ce que l'homme doit faire. Oui. Dieu les a dit, cultivez la terre. Cultiver et veiller. Par là, nous voyons que Dieu ne travaille pas avec des fainéants. Si nous voulons voir des résultats dans nos vies, nous devons s'aligner à ce que Dieu dit. Le travail, sans la bénédiction. La fois passée, j'avais enseigné que Dieu bénit le travail de nos mains. Dites avec nous, Dieu bénit le travail de mes mains. Regarde tes mains. Dites, Dieu bénit le travail de mes mains. J'aimerais bien m'adresser à ceux qui sont au chômage. Je déclare au nom de Jésus que le temps passe n'importe comment ou quoi. Dieu, comme il a dit qu'il bénit le travail de vos mains, ça veut dire que le travail s'en vient. Amen. Est-ce que tu peux dire avec moi par la foi, viens travail. La Bible dit, regarde-moi, nous sommes des humains, nous sommes des hommes de foi. Les hommes de foi amènent à l'existence des choses qui n'existent pas. Frères et sœurs, c'est pourquoi quand je commençais, je disais, ne faut jamais être influencé par ce que tu vois. Même si tu es au chômage, ne vous en faites pas. Dieu ne te gardera pas au chômage pour toujours. Comme la Bible dit que Dieu bénit le fruit de vos mains, ne vous en faites pas. Quand tu te lèves le matin, sois un homme, une femme de foi. Tu te lèves, peu importe ce qui travaille, ce qui se passe dans tes pensées, tu dis, wow, je ne suis pas bouleversé par ce que je sens, je ne suis pas bouleversé par ce que j'entends dans mes pensées, mais je suis plus bouleversé par ce que Dieu dit. Dieu dit qu'il bénit le fruit de mes mains. C'est pourquoi aujourd'hui je suis au chômage, je prends ce temps pour prier, je sens pour ce temps pour lire la parole de Dieu, mais je me prépare pour le meilleur de travail que Dieu prépare pour moi, peu importe comment Dieu, le diable mettra des obstacles, mais mon travail, je t'appelle par la foi, tu viens. Vous savez, Dieu honore des hommes et des femmes de foi qui marchent dans une foi comme ça. Dieu ne bénit pas des personnes qui passent leur temps à raisonner du matin au soir. Dieu te dit, aligne-toi dans ma parole et proclame. Déclare, parce que la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction est au pouvoir de ta langue. Dieu te dit, je t'ai créé à mon image, apprends à déclarer des choses qui semblent paraître bizarres pour l'humain. mais qui est vrai pour ma parole. Ah. Vous avez raté l'opportunité de dire un bon amen. Frères et sœurs, c'est ça qui fait la différence entre les églises traditionnelles et les églises de foi. Les églises de foi, c'est que des gens qui se disent, nous nous mettons du côté de Dieu, ce qu'il dit est vrai. Ce qu'il dit est vrai, peu importe ce que je sens, peu importe ce que les gens disent, peu importe ce que l'économie, peu importe ce que le social, peu importe l'identité que les gens m'ont donnée, je m'en fous, mais ce qui compte, c'est ce que Dieu dit. Mes frères et sœurs, si la Bible témoigne, vous pensez que tu es l'unique personne que Dieu va décevoir? Mais non, Dieu parle des hommes et des femmes. Dieu parle des hommes et des femmes qui lui ont fait confiance. Ils ont vu des résultats. Dites résultats. J'aimerais bien voir des personnes dans la salle qui ont vu des résultats à cause de leur foi. Bougez la main, bougez la main. Est-ce que tu peux dire un bon amen? Dites avec moi résultat. Résultat. Dites résultat. Ah. Dieu bénit le travail de nos mains. Nous allons voir encore la troisième personne. Nous allons voir un peu des personnes que la Bible nous montre, mais qui sont appelées à travailler. Dans le Proverbe, chapitre 31, Proverbe 31, nous sommes en train de voir vraiment ce que la parole de Dieu nous enseigne à propos du travail. Il nous donne des exemples de travailleurs. Louange à Dieu. Proverbe 31. J'aimerais bien que vous alliez lire tous les livres de Proverbes, mais si vous commencez à partir du verset 10, on montre l'exemple d'une femme. Dites une femme. Verset 10, la Bible dit, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur qu'elle le père. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une... Mais, les femmes, est-ce que vous êtes là? Verset 14, il dit, elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin, elle se lève lorsqu'il est encore nuit, et elle donne la nourriture à sa maison, elle attache à ses servantes. Elle pense à un champ, et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne, elle ceint de force ses reins. Elle a fermé ses bras, elle sent ce qu'elle gagne et bon, sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison. Dites, elle ne craint pas la neige. Car toute sa maison est vêtue de cramoisi. Elle s'est fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises. Elle vend et le livre de ceinture aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire. Elle se rit de l'avenir. Quelqu'un peut dire amen? Ah, 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 ah. Écoutez cette femme. Ouh. On ne voit pas de fainéants dans une catégorie. Est-ce que cette femme, elle est paresseuse? Allez méditer cela. Allez méditer cela. Allez méditer. Allez méditer. C'est une femme travaillant. C'est une femme qui bosse. C'est une femme, la Bible dit, elle se rit de la vie. Regardez-moi. Une femme de foi, quand elle regarde l'avenir, elle dit, le Dieu de l'avenir est avec moi. Tu regardes l'avenir, tu te lèves très tôt le matin, tu dis, le Dieu de l'avenir est avec moi. Je marche avec le Dieu de l'avenir. Je marche avec le Tout-Puissant. Je marche avec le Créateur. Et parce qu'il est en moi, je m'en fous de l'avenir. Parce que ce que j'appelle l'avenir, c'est déjà le passé de celui qui est en moi. Je veux vers le passé de Dieu. Ce que moi j'appelle avenir, c'est déjà le passé de Dieu. Cette femme dit, j'ai fait ma part, je me bats. Voici le pourquoi on a besoin de femmes qui vont frapper de gauche à droite. Et parfois Dieu t'a appelé à être une grande femme d'affaires. Foncez par la foi, ayez une vision. Et parfois Dieu t'appelle à être une députée. Eh bien, allez-y par la foi. Regardez, il y a peu d'amen, il y a peu d'amen, il y a peu d'amen. Regardez-moi, regardez-moi, regardez-moi. Les jeunes, est-ce que vous êtes là? S'il vous plaît, les jeunes. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Que les diplômes viennent. Que vous preniez des postes dans la ville. que vous devenez des députés, je le déclare par la foi au nom de Jésus. Devenez des hommes politiques. Devenez des femmes politiciennes. Devenez des PDG de société. Mais vous savez, dans la mentalité de plusieurs personnes, disent, ah non, ça c'est impossible, ça c'est pour les autres. Est-ce que ces gens-là que vous dites, c'est pour les autres? Regardez-moi. Regardez. Ah non, c'est toujours pour les autres. Tout ce qui est meilleur, c'est pour les autres. C'est pour les autres. Et moi, regardez-moi. Vous comprenez, vous comprenez l'exemple que je vous ai toujours donné de ces grands pêcheurs-là qui étaient au bord de l'eau, qui étaient en train de pêcher. Et quand ils prenaient un gros poisson, ils le retournaient dans l'eau. Quand ils prenaient les petits, ils les mettaient dans son sac. Jusqu'au moment où quelqu'un s'est présenté, il a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il a dit, oh non, non, mon frigo n'est pas trop grand pour recevoir les gros poissons. Alors les plus petits, moi, j'ai... Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Tout ce qui est idée de grandeur, ils disent, non, 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 c'est trop grand pour moi. Voyez pourquoi on sera obligé d'être conduit par des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Parce qu'eux, ils ont plus d'audace. Des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, ils ont une foi à leur manière. Ils croient aux grandes choses. Et puis sinon, nous sommes là en train de le critiquer. Mais alors, qu'est-ce que toi tu fais? On sera obligé d'être conduit par des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Pourquoi? C'est parce que les gens qui connaissent le Seigneur, eux, ils sont là pour les petites choses. Alors qu'ils ont un Dieu grand. Alors qu'ils ont un Dieu intelligent. Alors qu'ils ont un Dieu puissant. Et quand vous regardez bien, même des personnes parfois qui vous guident ne sont pas plus intelligents que toi. Ah. Parfois vous êtes bien éduqué plus que lui. Parfois vous êtes bien organisé que lui. Mais tout simplement, c'est un bosseur, c'est un audacier. Dites audacier. Ah! Frères et sœurs, c'est des audaciers qui vont loin. Quand quelqu'un a le courage, Dieu bénit le courage. Dieu bénit l'audace. Dieu fonce avec un courageux. Dieu bénit. Dieu ne bénit pas des gens qui sont là. Dieu agira. Non. Dieu bénit quelqu'un qui va frapper à la porte. La Bible dit frappez et on vous ouvrira. Demandez et il vous sera donné. Cherchez et vous trouvez. C'est ça l'évangile. C'est ça la puissance de la parole. C'est ça, frères et sœurs. Dieu ne viendra pas te servir sur un plat comme ça. Alléluia. Et puis te met la bavette, manger, mon bébé. Dieu va bénir la force de tes mains. Frères et sœurs, vous savez que tu peux aller loin que comme tu n'as jamais pensé. Oh, vous pouvez aller loin. Je peux aller loin. Dites avec moi, je peux aller loin. Dites avec moi, ni Satan, ni les démons, ni les humains ne pourront m'arrêter. Frère, vous savez, la Bible dit que cela te soit fait selon ta foi. C'est ce que tu crois. Si tu crois que les gens vont t'arrêter, alors les gens vont sortir avec des ongles comme des petits satans vont t'arrêter. Mais si tu crois que peu importe, oui, il y aura toujours des personnes qui viendront, qui mettront des cales. Vous savez, quand on était des jeunes, quand on marchait ensemble avec les amis, parfois on faisait ça. Alors si toi, tu ne vois pas le pied, tu fais... Mais pourquoi tu m'as fait ça? Mais c'est parce que c'est toujours comme ça dans la vie. Il y aura toujours des personnes qui tenteront de mettre des cales. Mais quand toi, tu as le Seigneur, tu dis c'est sans effet. Je vais avancer parce que celui qui est en moi ne peut être bloqué. Mais l'avancement ne vient pas en croiser les bras. L'avancement vient en fonçant. Dieu cherche des fonceurs. Dieu cherche des personnes qui peuvent se tenir comme ça. Regarde le regard des gens. Vous savez, beaucoup de personnes ont peur du regard des gens. Moi, si tu me regardes avec ton regard bizarre, je te regarde aussi en face. J'ouvre les yeux et puis je passe. Tu as des yeux, moi aussi j'ai des yeux. Oh non, on m'a regardé. Eh bien, tu m'as regardé. Moi aussi, je vais te regarder, non? Oh non, moi, tu sais. Moi, j'ai toujours peur de regarder des gens. Tu as peur de regarder des gens. Et parfois, tu dois traverser ces gens-là. Pour que tu prennes possession de ce que Dieu a préparé. Mais si toi, tu fouilles déjà le regard, ça veut dire que tu fouilles ta destinée. Tu fouilles ce que Dieu veut. Ah. On peut continuer? Dis-moi, continue, pasteur, continue. Merci. Quatrième, voyons l'exemple. Non, on a, la femme, c'est la troisième. Quatrième, Jésus durant sa vie terrestre, tout comme aujourd'hui, il travaille. Dites, il travaille. Vous savez, si vous lisez dans Marc chapitre 6, verset 3, allez lire cela à la maison. Vous savez, un jour, Jésus était en train de prêcher, on lui dit, mais c'est pas lui, le charpentier, le fils de Marie. Hello? Amen. Jésus était un bosseur. Et même les gens qui l'écoutaient disaient, mais oh, mais c'est Jésus-là, mais nous le connaissons, c'est lui qui a fabriqué même ma chaise là. C'est un charpentier. C'est lui qui a fabriqué ma chaise. Comment aujourd'hui il se déclare prophète, pourquoi? Dit, nous voyons que non seulement quand il était dans le corps physique, il travaillait, mais quand vous regardez bien, son esprit de travail l'a suivi même dans le ministère. Même dans le ministère. Parce que les gens pensent que le ministère, c'est pour les fainéants. Les gens pensent que non, parce qu'il a raté partout, maintenant il veut entrer dans le ministère. Non. Le ministère, c'est un travail. Le ministère, si tu n'as pas l'étoffe, si tu n'es pas un cogneur, si tu n'es pas un fonceur, tu vas en vouloir à tout le monde. Ils ne me soutiennent pas, ils ne me soutiennent pas. Mais Dieu t'a dit, avant que les gens viennent te soutenir, il faut que tu traces le chemin par la foi. Dieu ne travaille jamais avec des fainéants. Allô? Lisons un peu, lisons un peu. Alléluia. Dans Jean chapitre 5, verset 17, qu'est-ce que la Bible dit? Jean chapitre 5, verset 17. Et puis prépare Marc chapitre 16, verset 20. Et puis prépare 1 Pierre 5, verset 3. Allez-y. Alors il dit, mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi j'agis. Dans l'autre version, il dit, mon Père travaille, moi aussi je travaille. Regarde un peu la réponse de Jésus. Jésus dit, mon papa c'est un travailleur. Et comme il travaille, moi aussi je fais quoi? Je croise les bras. Non, il dit, moi aussi je travaille. Là, il était en plein ministère. Quand Jésus disait ça, il était en plein ministère. Frères et sœurs, j'aimerais bien mettre entre parenthèses là. Vous savez, les gens pensent que parfois le ministère, les gens veulent voir parfois leur ministère grandir. Les gens veulent voir parfois, tu es responsable d'intercession, tu es responsable, je ne sais pas de quoi, tout le ministère que tu fais à l'église, regarde-moi. Tu peux être responsable d'un ministère, mais si tu n'investis pas, si toi-même tu ne travailles pas, tu verras que ce ministère ne grandira pas. Qui est là? Attends, moi je me souviens, j'ai travaillé à l'école dimanche comme directeur de l'école de dimanche. Mais si vous voyez le nombre de temps, vous savez, en Afrique, on n'avait pas de voiture pour aller de gauche à droite. Mais j'avais une classe des adolescents et des adolescentes. Et les adolescentes et les adolescents me faisaient craquer les nerfs. Je voulais vivre, je devrais me balader dans toute la ville pour aller voir telle fille. On dit, telle fille, elle a fait l'avortement. Je courais, telle fille, monsieur, directeur, telle fille, il a fait ça. Telle fille, elle a fait ça. Je devrais être partout. Et certainement, je retournais à la maison à 1h du matin, fatigué. Mais vous savez, après le dimanche, je voyais des résultats parce que les gens venaient. Les jeunes commençaient à me suivre. Les jeunes commençaient à suivre. Les jeunes commençaient. Ils disaient, non, je leur expliquais que ça ne sert à rien. Vous êtes en train de démolir votre futur. Vous êtes en train de démolir. Vous savez, leur maman venait et disait, frère, me disait, oh, ce moment-là, je n'étais pas passé. Elle disait, frère Fofi, merci. Parce qu'on peut voir des résultats dans la vie de nos enfants. Mais frères et sœurs, il faut tout le temps grimper dans les autobus. Il faut parfois passer toute la journée en train de gêner. Il faut parfois supplier une fille qui ne veut rien savoir. Frères et sœurs, mais les résultats viennent après. Tu peux avoir un ministère. Peu importe le ministère que tu fais à l'église. Si tu ne mets pas du travail là-dedans. Si tu ne mets pas du travail là-dedans, tu ne verras jamais le résultat. Le résultat dans chaque ministère à l'église demande que les responsables, demande que ceux qui travaillent dans ce ministère aient un esprit de travail. Qui est là encore? Parce que quand on a l'esprit de travail, regarde-moi, quand on a l'esprit de travail, on travaille. Vous dites, bon, nous sommes de tels ministères à l'église. Nous voulons voir des résultats. Vous allez vous rencontrer, vous allez prier pour, vous allez faire ce qu'il faut. Vous allez faire ce qu'il faut pour voir ce ministère monter. Mais là où les gens pensent que non, un tel, lui, il fera quelque chose. Moi, je ferai ceci, un tel. Mais vous savez ce qui se passe? Au moment où les autres attendent que l'autre fasse quelque chose, l'autre aussi dit, moi, j'attends que quelqu'un d'autre fasse quelque chose. Et puis l'autre l'a dit, bon, j'attends que quelqu'un d'autre. Finalement, c'est pourquoi vous voyez des ministères dans les églises qui ne fonctionnent pas. Pourquoi? C'est parce qu'ils n'avancent pas. Pourquoi? C'est parce qu'ils pensent que c'est quelqu'un d'autre qui doit le faire, au moment où c'est toi qui es appelé à le faire. Frère, de vrais résultats dans les églises, même dans la croissance d'une église, si chaque personne ne voit pas le salut des âmes, si chaque personne ne dit pas je suis sauvé, j'aimerais bien que d'autres soient sauvés. Si chaque personne n'enlève pas la timidité, n'enlève pas la honte pour rencontrer les gens dans le métro, dans les autobus, dans les supermarchés, et leur dire, écoutez, je n'ai pas honte de l'évangile, vous avez besoin de Jésus. Si tu n'invites pas, si tu n'enlèves pas la honte pour inviter les gens, vous pouvez parler de la croissance, vous ne verrez jamais la croissance. Ah, je n'entends pas. Vous savez, vous pouvez parler de la croissance, la croissance appartient à des fonceurs. Quand nous travaillons, Dieu bénit le fruit de nos mains. Quand nous travaillons, Dieu va bénir le fruit de ce que vous faites. Frères et sœurs, si nous voulons voir des milliers de personnes être sauvées, il faut que ce soit l'affaire de tout le monde ici. Il faut que chaque personne dise, 2010, je vais parler de Jésus. 2010, je vais inviter même deux, trois. 2010, je vais enlever la honte. Je vais enlever la timidité. D'une manière ou d'une autre, je vais demander l'intelligence à Dieu. Je vais inviter des personnes pour mon anniversaire. Je vais les inviter à l'église. Chaque personne doit faire... Vous savez, il y a beaucoup de personnes dans les églises depuis qu'ils sont sauvés. Pose la question. As-tu déjà amené même une personne au Seigneur et te dira, boss, ça, c'est le travail des gagnants des âmes. Mais alors que la Bible dit, les gagnants des âmes, c'est tous ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Quelqu'un peut dire un bon amen. Quelqu'un peut dire un bon amen. Quelqu'un peut dire un bon amen. Regardez-moi, frères et sœurs, le travail. Dieu nous montre l'exemple de travailler. Il n'y a pas de résultat sans le travail. Il n'y a pas de résultat, ne vous en faites pas. Il n'y aura pas de résultat. Il n'y a pas de résultat. Croisez les bras, voyez pourquoi les gens parfois craignent. Mais c'est parce qu'il y a d'autres qui sont défenseurs, il y a d'autres qui croisent les bras et pensent que bon, je veux prier, et puis les choses vont tomber. Non, il y a un temps pour prier, il y a un temps pour agir. Il y a un temps pour prier, et quand toi tu auras fini de faire ta part, et même si tu vois comme si les portes ne s'ouvraient pas, mais après avoir prié, et que toi tu fais ta part, ne vous en faites pas, il y a une porte qui va s'ouvrir. Il y aura toujours une porte qui va s'ouvrir. Peu importe l'atrocité de l'ennemi, il y aura une porte. Et quand toi tu fais, dans tous les domaines, quand tu gagnes des âmes, tu invites quelqu'un à l'église, la personne te dit non, je n'ai pas l'envie. Tu invites encore, je n'ai pas le temps. Mais vous savez, persiste, insiste, priez, n'invitez pas quelqu'un seulement pour inviter. Va d'abord, prie. Seigneur, tu as dit que personne ne peut venir à toi si toi tu n'appelles. Seigneur, je crois qu'il y a des hommes et des femmes que tu appelles dans cette ville. Et parmi ces hommes et des femmes que tu appelles, Seigneur, donne-moi l'opportunité. Fais-moi un privilège. Mets quelqu'un sur mon chemin, au travail, à l'école, au cégep, dans les loisirs, au terrain du sport, aux salles de gym. Seigneur, mets quelqu'un sur mon chemin. Si tu commences à prier de cette manière, le Seigneur va mettre quelqu'un sur votre chemin. Qui veut faire l'expérience? Prie de cette manière, Seigneur, je sais que la Bible dit que personne ne peut venir à Dieu si Dieu ne l'appelle. Alors Seigneur, certainement, parmi les gens que tu appelles, je te demande, Seigneur, fais-moi un privilège. Mets quelqu'un sur mon chemin, afin que je sois un canal pour lui. Frères et sœurs, c'est le plus grand privilège. Mais souvent, comme les gens ne demandent pas, la Bible dit, demandez et Dieu le fera. Allô? Vous savez, il y a un gars là, un chrétien, un jour il était en train de prier, il dit, oh Seigneur, mais moi aussi, j'ai besoin d'emmener des âmes, toi. Mais mon voisin à côté ici, et on ne se regarde même pas. On ne se dit même pas bonjour. Maintenant, crée un moyen, circonstance, afin qu'on puisse se rencontrer. Vous savez, un jour, quelque chose s'est passé dans le garage de l'ami. Son garage a bloqué. Alors, il cherchait quelqu'un pour l'aider. Il regarde, et il voit la personne tourner. Il dit, oh, mon ami, dit, bonjour, salut voisin. Elle dit, je vois que tu es mal pris. Il a dit, oui, je suis mal pris. Est-ce que je peux t'aider? Il a dit, oh, et puis finalement, ils ont soulevé. Réglé. Oh, merci, oh, vraiment merci, merci. Le Seigneur dit, je t'ai donné déjà l'opportunité. Il dit encore, Seigneur, aide-moi parce que j'aimerais bien aller plus loin. C'était le jour de tondre la pelouse. Et finalement, il voyait que son ami n'avait pas de moyens de tondre. Et il tournait à la porte et dit, je peux te prêter ma tondeuse. Et puis, il dit, oh, mais c'est malheureux. De toute façon, je peux t'aider aussi. Je peux t'aider. Il commence à tondre. Finalement, en tondant la pelouse, il s'était en train de parler. Le Seigneur dit, je te donne encore une autre opportunité. Troisièmement, il a dit, Seigneur, vraiment, vraiment, vraiment. Mais maintenant, j'aimerais bien que tu permettes que nous allons prendre un café. Un autre jour, ils entraient dans la voiture. Je vois sur le voisin entrer dans la voiture. Mais vraiment, j'aimerais bien t'inviter à prendre un café. Dit, oh non, ça ne me dérange pas. Troisième opportunité. Quatrième opportunité, le Seigneur lui dit, je te l'ai donné. Elle dit, mais Seigneur, permettez-moi vraiment, permettez-moi que je l'invite à l'église. Frères et sœurs, beaucoup de personnes pensent qu'il va seulement, Jésus t'aime, viens dans notre église. Non. Il faut suivre parfois, il y a d'autres personnes, ils ont été préparés pour ça, ils peuvent venir, mais il y a d'autres personnes, il faut aller étape par étape. Mais il faut aussi avoir qu'il faut être brisé. Parce que si dans les quartiers, on connaît que toi, tu ne dis même pas bonjour à quelqu'un. Si dans ton quartier, quand tu sors, tu regardes les gens avec un regard bizarre. Tu penses que les gens seront ouverts? Non. Ils ne seront pas ouverts. Frères et sœurs, notre comportement peut bloquer des gens. La Bible dit, nous sommes les sels de la terre. Il faut que nous nous faisons notre part pour que Dieu fasse sa part. Si tu as un mauvais comportement, tu passes tout ton temps à te chamailler avec ton voisin. Oh non, ils ont fait du bruit. Ils viennent, ils commencent à crier. Toi aussi, tu dis, tu penses que tu vas te jouer de moi? Hein? Et c'est mon droit, non? Tu dis, je m'excuse. Si on a fait du bruit, s'il vous plaît, est-ce que tu peux nous excuser? Je crois qu'on va gérer cela pour qu'on ne puisse pas te déranger. Vous savez, il y a d'autres personnes qui ont un mauvais caractère. Et c'est le caractère de son fin fond du village qui l'amène. Mais de toute façon, je suis libre ici, non? Je peux faire le bruit. Mais attends, quand tu sais que tu vis avec des amis, il faut savoir collaborer. Comment voulez-vous que les gens viennent au Seigneur au moment où vous vous chamaillez toujours avec ton voisin? Dites travail. Mais pourquoi vous ne parlez pas? Dites travail. Si tu te vois, alors répands-toi. Dis travail. Quelqu'un peut dire amen. Jésus travaillait. Dans Marc chapitre 16, verset 20, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Marc 16, 20, la Bible dit, et ils s'en allèrent, prêchaient partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par le miracle qui l'accompagnait. Vous entendez, la Bible dit, ils s'en allèrent, prêcher partout. Le Seigneur travaillait. Par là, nous voyons que Jésus, non seulement il était un charpentier, mais Jésus était un travailleur. Même après avoir été résisté, retourné au ciel, la Bible dit qu'il travaillait avec les disciples qui allaient prêcher. Regarde-moi, si tu veux que le Seigneur travaille avec toi, il faut que toi tu utilises ta bouche. Il faut que tu prennes ta bouche, tu le prêtes à Dieu. Il faut que tu prêtes ta bouche à Jésus. Il faut que tu prêtes ta bouche à Jésus pour que lui travaille avec toi. La Bible dit qu'il travaillait. Là, nous voyons que Jésus travaille, c'est un travailleur. Même à la droite du Père où il est assis, la Bible dit qu'il intercède. C'est un intercesseur. Ça veut dire que c'est un travailleur. Il n'a pas dit maintenant, je vais croiser mes bras au ciel, formidable, je fais le travail, c'est accompli maintenant. Bon, en tout cas, débrouillez-vous sur la terre. Mais la Bible dit qu'il intercède. Dites, il intercède. Le Seigneur travaillait avec eux. La Bible dit, Jésus travaillait avec eux. Il était au ciel, mais il travaillait encore au travers des chrétiens. Qui est chrétien ici? Amen. Dieu dit à ces chrétiens d'être des travailleurs. Vous voulez des résultats? Vous voulez voir des résultats à l'église? Mais sois un travailleur. Investis du temps. Ouvre ta bouche. Tends ta main. Faites quelque chose. Merci. Les apôtres, descendons, cinquième. Les apôtres ont travaillé avec ardeur et nous appellent à les imiter. Les apôtres ont travaillé avec ardeur et nous appellent à les imiter. 1 Pierre chapitre 5, verset 3. 1 Pierre chapitre 5, verset 3. La Bible dit ceci. Non comme dominant sur ceux qui vous sont écus et partagés, mais en étant le modèle du troupeau. Béni soit le nom du Seigneur. On ne peut pas être un modèle sans l'esprit de travail. On ne peut pas être un modèle sans l'esprit du travail. Il y a des moments où nous demandons aux autres de faire quelque chose que toi-même, tu n'es pas un modèle. Allô? Tu ne peux pas demander aux gens de faire quelque chose que tu n'es pas modèle. Vous savez, on dit souvent, un grand leader, ce n'est pas quelqu'un qui commande, mais c'est quelqu'un qui montre l'exemple. Les grands leaders qui réussissent, s'ils disent de gagner des âmes, eux-mêmes, c'est de gagner des âmes. S'ils disent, venons à prions, lui-même, c'est un homme de prière. S'il dit donner, lui-même il paye sa dîme. Ça veut dire qu'il doit toujours être un modèle. Il n'est pas parfait, mais il est un modèle. Frères et sœurs, la Bible veut que nous devenions des modèles de l'esprit d'engagement, d'abandon, l'esprit du travail. Frères et sœurs, cette année 2010, le Seigneur ne veut pas que tu sois là comme un consommateur de la parole. Dieu dit, tu as beaucoup consommé. Maintenant, passez en action, allez au travail, travaillez pour voir l'œuvre de Dieu grandir. Un esprit de travail. Vous savez, le travail, ça veut dire quoi? Parfois, en étant à l'église, tu regardes de gauche à droite. Ah, j'ai toujours vu mon voisin, on se parle toujours. J'ai toujours vu, mais la personne qui s'assoit toujours à côté de moi, mais ce dimanche, je ne le vois pas. Qu'est-ce que je peux faire? Mais vous savez, parfois même dans les églises, beaucoup de personnes parfois se méfient de se donner des téléphones parce qu'il y a d'autres personnes, tu lui donnes le téléphone, alors là, il a trouvé un partenaire pour critiquer les gens. Alors, dès que tu l'appelles, comment, oui. Et qu'est-ce qui se passe? Ah, tu as vu ce qui s'est passé le dimanche? Ah oui. Tu as vu telle fille? Ah, tu as vu tel monsieur? Ah oui. Voyez, c'est pourquoi parfois les gens se méfient de donner leur téléphone. Parce que normalement, nous devons nous donner les numéros de téléphone afin que nous puissions nous appeler au cours de la semaine. Parce que c'est ça, servir. Tu peux appeler quelqu'un et parfois tu dis, mais j'ai traversé des moments difficiles. Regarde ce qui m'est arrivé. Regarde ce qui m'est arrivé. J'ai traversé des moments difficiles, vraiment. Et tu dis, en bon, tu as traversé des moments difficiles. Oui. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Est-ce que je peux être utile pour toi? Est-ce que je peux être utile pour toi? Est-ce que je peux être utile? Et vous savez, quand tu vas, tu te présentes, tu ne sais pas ce que tu peux faire pour lui. Tu ne sais pas, tu es un canal de bénédiction. Quand tu arrives, tu ne commences pas par calomnier. Parce que quand tu ouvres ta bouche pour commencer à détruire la vie de quelqu'un, tu as détruit déjà l'onction. L'onction ne sera plus là. Mais quand tu arrives, tu dis prions. J'aimerais bien être une bénédiction. Vous savez, quand tu es une bénédiction dans la vie de quelqu'un, quand tu sortiras de là, la bénédiction te suit. Toi-même, tu vas t'étonner que quand tu seras dans les moments difficiles, tu verras que Dieu va te rendre selon ce que toi tu as fait. Qui est là? Qui est là encore? Qui est là encore? Les gens sont à l'église. Ils ont besoin d'être suivis. Mais la vraie personne qui doit faire le suivi, c'est la personne à côté de toi. Tu es appelé à veiller. La Bible dit, prenez-vous soin les uns. La Bible dit, les uns les autres. Les uns les autres. Les uns les autres. La Bible dit, prenez-vous soin les uns les autres. Frères et sœurs, s'il y a un esprit qui est en train de détruire les églises à tel point que les églises ne croissent pas, vous savez, ces gens-là parfois ne commettent plus l'adultère. Mais il y a un démon de calomnie partout, que ce soit dans les églises des blancs, des noirs, des jaunes. Je vous en prie, je vous le dis, les gens sont pareils. Vous savez, parfois les gens vous diront, « Oh, les églises des noirs, il y a trop de problèmes. Mais oh, tu n'as jamais vécu avec les autres. » C'est l'esprit. Que ce soit en Chine, que ce soit au Japon, que ce soit en Afrique, que ce soit partout, l'homme reste un homme. Quand le centre de sa vie n'est pas la crainte de Dieu, tu peux voir un Japonais détailler la vie de quelqu'un dans le mal, tu ne peux pas croire. Mais moi, j'étais en Australie. Un jour, je vis quelqu'un qui était en train de pleurer lors d'une conférence. Et certainement, après des jours, je me suis dit non. Il pleure tout le temps avec sa femme. Qu'est-ce qui arrive? Je pose la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il a dit, nous venons de l'île qui est à côté de l'Australie, là. Nouvelle-Zélande. Il a dit, nous venons de Nouvelle-Zélande. Nous sommes des chrétiens, mais on nous a détruits. Je dis, ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, oh, nous sommes presque morts par des paroles. Et vous savez, il a traité, il a dit, les chrétiens, c'est des cannibales. C'est ça qu'il m'a dit. Je dis, waouh! Mais c'est parce que c'est ça, vous voyez, c'est des gens de Nouvelle-Zélande, c'est des Australiens. Vous voyez, on peut dire, ils n'ont pas votre couleur. Mais quand le cœur de l'homme n'a pas comme priorité la présence de Dieu, ne vous en faites pas, cette personne est prête à être utilisée par des démons et puis dévaster la vie des gens. Mais alors que la Bible dit, nous ne sommes pas appelés à détruire, mais à faire quoi? À bâtir. Il faut avoir en nous l'esprit du travail. L'esprit du travail. Quel travail? Je vais faire l'œuvre de mon papa. Quel travail? Je vais édifier celui qui a besoin d'être édifié. Je vais encourager celui qui a besoin d'être encouragé. Je vais appeler, non pas pour que nous détruisions la vie de quelqu'un, mais je vais l'appeler afin que nous ayons une communion fraternelle. Pas dans les mains. Tu es là? Il dit, mon père travaille, moi aussi je travaille. Frère, l'esprit du travail doit nous emporter. L'esprit du travail doit être quelque chose qui prend le cœur de chacun de nous. Alléluia. Disons encore dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 1. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 1. Allons-y rapidement. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 1. La Bible dit ceci. Puisque nous travaillons avec Dieu. Dites, nous travaillons avec Dieu. L'apôtre Paul dit ici, puisque nous travaillons avec Dieu. Dieu doit être ton partenaire. Frères et sœurs, Dieu est mon partenaire. Dieu est mon partenaire. Vous savez, j'étais en train d'encourager les jeunes ici qui étaient en train de répéter. Je crois qu'ils peuvent vous le dire. Quand je passe toujours à côté d'eux, quand ils sont en train de répéter, je dis, les amis, go, go, go! Vous voulez des résultats quand vous allez chanter? Il faut donner encore plus, il faut donner encore plus. Demandez-leur. Demandez, c'est l'armée, quand je viens les voir, c'est comme l'armée. Je dis, écoutez, si vous voulez donner plus, il faut accélérer plus. Si vous voulez donner plus, il faut travailler plus. Frères et sœurs, c'est un principe. La qualité ne vient pas comme ça. La qualité est le résultat du travail. Est-ce que vous êtes là? La qualité, regardez-moi, la qualité dans chaque domaine, c'est le résultat du travail. Regardez-moi, tu peux avoir un talent de bon chanteur, mais si tu n'aimes pas t'entraîner, si tu n'aimes pas, regardez les gens comme les païens, les gens du monde. Mais Céline Dion, elle passe ici, c'est combien des heures? Et j'ai suivi ces informations. Elle passe parfois 12 heures, 14 heures en train. Mais vous savez, quand elle prend le micro, ne vous en faites pas. Toi, tu peux dire que non, moi, je peux chanter comme Céline Dion, tu n'arriveras pas. Parce que les sacrifices qu'elle fait, toi, pendant tout un temps, tu es là quelque part. Ah non, moi, je suis le vedette. Hein, moi, je suis un vedette. Moi, je suis un vedette. Hein, tu n'iras nulle part. Hello. Mais moi, je vis des grands joueurs de soccer. Au lieu d'aller dormir avant, au lieu de se coucher avant, ils passent tout leur temps à aller boire, 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 boire. Et puis, à un certain moment, sur le stade, tu vois la personne devient pesant. Et puis, quelqu'un d'autre prend là-bas et fait ça. Et fait, tu vois la personne passer là-bas. Parce que la personne, au lieu d'aller se reposer, au lieu de se discipliner, il passe son temps à boire. Les femmes, boire, sa carrière coule. Quelqu'un d'autre vient, il monte parce que c'est un fonceur. Frères et sœurs, même dans la vie courante, c'est pareil. Amen. Si tu ne travailles pas pour l'excellence, un jour tu peux te voir dehors de ton travail. Tu es d'accord avec moi? Continue à arriver en retard et puis ment. Continue à arriver en retard et puis ment. Continue à arriver en retard au travail et puis ment. Un jour, tu t'en foutras à la porte. Ne vous en faites pas. Ne dis, oh Dieu, Dieu, pourquoi tu as permis? On t'a mis à la porte parce que tu n'as pas l'esprit d'excellence. Même les sociétés travaillent pour l'excellence. Mais seulement les églises, ils ont prié. Alléluia, alléluia, alléluia. Et puis, ils oublient que pour que la salle soit propre, il faut veiller à ne pas jeter la chingon. Il faut veiller de ne pas jeter votre Kleenex. Quand on dit amen, ramasse votre Kleenex, tu sors avec, tu vas le jeter dans une poubelle. C'est ça qui fait que la salle reste propre. Mais quand, oh non, de toute façon, je peux le jeter en bas. Et puis, hein, de toute façon, il y a toujours les gens qui le lavent, non? Tu n'es pas une bénédiction. Laisse la mentalité de la forêt chez toi. Laisse la mentalité des chauves-souris chez eux. Il faut un changement, dites un changement. Dites un changement. Vous savez, il y a des personnes qui n'ont même pas le respect dans la présence. Tu les vois. Tu es en train de prier pour les gens. Dernièrement, aux États-Unis, je voyais, j'étais en train de prier pour les gens. Et puis, ils mangeaient le chicon. Gna, gna, j'ai arrêté. J'ai dit, oh, oh. J'ai dit, madame, moi, je suis en train de prier. Tu es en train de mâcher le chicon. Et tu penses que tu peux recevoir? Voyez comment les gens manquent même le respect dans la présence de qui? De Dieu. Et ils sont là, oh non, on a prié pour moi, je n'ai rien reçu. Mais ton attitude n'est pas propre. Ton attitude, s'il vous plaît, tu te rends compte, non, non, non. Et puis le prédicateur, il est là, oh Seigneur, Seigneur. Le Seigneur te dit, arrête, la personne ne me respecte même pas. La personne n'a même pas du respect de ton ministère. Il ne croit même pas. Tu sais, on peut te donner toute une liste. La personne, il est là, il ne croit même pas. Il te prend comme un petit magicien. Priez, je suis venu, toi tu es pasteur, priez pour moi. Et puis que le miracle se fasse, si Dieu n'agit pas, on verra. Ouais, allez, allez. Ça ne marche pas comme ça, ça demande une discipline. Dites discipline. Avec respect, tu vas dans la présence de Dieu. Tu exhortes ta foi, tu dis à ta foi, je veux recevoir de la part du Seigneur. Seigneur, avec les actions de grâce, c'est pourquoi vous voyez, d'autres personnes viennent, ils reçoivent. D'autres personnes retournent comme... Et le diable leur dit, est-ce que ça vaut la peine de continuer à venir à l'église? Non, reste chez toi, tu ne reçois pas. Mais le problème avant de juger Dieu, c'est toi-même. Qui est là? Je disais, qui est là? Dites, 2010. Je vais foncer. Ah, l'esprit du travail. Que son nom soit béni. Avant de terminer, non seulement les apôtres ont travaillé, mais... Dieu n'a-t-il pas maudit le travail de l'homme? Non. Mais me direz-vous, Dieu n'a-t-il pas puni l'homme en rendant la terre difficile à cultiver et la femme en le rendant l'enfantement douloureux? Précisément, confondre le sol arable et le travail en soi est aussi dramatique que de faire l'amalgame entre l'accouchement et le bébé. Frère, comme conclusion, Ne croyez pas. Vous savez, quand nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, ce que nous faisons n'est plus une malédiction. Dieu bénit ce que tu touches. Dieu bénit ce que tu touches. Si nous lisons dans Proverbe chapitre 12, verset 11. Proverbe 12, verset 11. Proverbe 12, verset 11, il dit ceci. Celui qui cultive son champ est rassasié de quoi? De pain. Mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens. Allô? Allô? Qu'est-ce qu'il dit? Celui qui cultive son champ est rassasié quoi? Ça veut dire que celui qui travaille, Dieu bénira et il verra la prospérité lui suivre. Frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Quand toi tu fais ta part, en faisant ce que la vie demande, et en mettant Dieu à l'œuvre par la foi et la prière, frère, Dieu donne comme le résultat, il bénit les fruits de tes mains. Il ne faut pas s'attendre à des résultats dans la vie en étant fainéant ou en bafouant le travail. Je vais vous donner des exemples. Même dans le monde naturel, la fois passée, j'avais donné l'exemple de la Burkina Faso. Burkina Faso, c'est un pays qui est en plein désert. Mais quand vous voyez parfois le niveau de vie de ces Burkinabés, vous pouvez même vous étonner qu'il y a même des pays où il y a l'or et l'argent dans les sous-sols, mais ils souffrent dans la misère. Vous savez, c'est parce qu'il y a eu un leader, Thomas Sankara, qui a tenté de montrer le travail, l'importance du travail aux gens. La Suisse, c'est un pays montagneux. Mais aujourd'hui, quand tu arrives en Suisse, tu vois toutes les routes. Mais c'est parce qu'il y a eu des personnes qui ont cru à leur pays, qui ont cru qu'ils peuvent donner un sens, qu'ils peuvent tailler. Aujourd'hui, tu peux voir des routes partout et circuler dans toute la Suisse. Mais c'est le fruit du travail. Mes frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Dieu travaille avec quiconque travaille. Amen. Qui a compris? Amen. Si Dieu nous a montré l'importance, s'il nous a montré que lui, c'est un travailleur, 2010, tu dois apprendre à t'aligner. Tu dois apprendre à foncer, à travailler comme Dieu travaille. Prenons la Bible. Continuons. Lisons un peu dans Proverbe chapitre 13, verset 4. Proverbe 13, 4 et puis 11. Préparez le verset 11. Proverbe 13, verset 4, et puis préparez le verset 11. Il dit ceci, Proverbe 13. Il dit, l'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. Aïe, 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 aïe. Mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Qui peut lire avec moi ce verset? Allons-y. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. Mais l'âme de l'homme travailleur sera rassasiée. La Bible dit que l'âme d'un paresseux, quand nous parlons de l'âme, ça veut dire les pensées. Les pensées de quelqu'un qui est paresseux, même ses désirs ne peuvent pas être comblés. Un paresseux. Beaucoup de personnes, parfois même dans leur vie spirituelle, on lui dit, tu peux prier même 20 minutes. Ah non, je n'ai pas le temps. Ah bon, tu as le temps pour d'autres choses. Et tu veux que les autres prient pour toi. Il faut que tu aies le temps même dans ta voiture. Rababa, Sandoro, Yokor. Ne fermez pas les yeux. Mais tu peux prier. Si tu vas au travail, tu fais 45 minutes pour quitter ta maison jusqu'au travail. 45 minutes là, utilise-les pour la prière. Amen. Tu n'as pas besoin de fermer les yeux et moi, tu es en train de rouler. Ça veut dire que même en plein bouchon, tu n'as pas commencé à râler là. Ah, qu'est-ce que ça passe? Oh, oh. Tu dis, ok, merci pour le bouchon, je vais prier. Mando korobosa. Un certain moment, tu as la paix. Tu dis, Seigneur, je te rends grâce et je te bénis. Je te remercie, Seigneur, pour cette journée. Merci, Seigneur, parce que le meilleur est devant moi. Merci, Seigneur. Tu ne sais même pas, parfois, ce bouchon-là t'a empêché de se cogner avec une autre voiture à quelques minutes. Et tu te mets en colère, pourquoi? Priez le Seigneur, prie le Seigneur. Si le trajectoire du maison jusqu'au travail, tu fais 30 minutes, tu peux faire de cela un travail dans le spirituel. Tu peux commencer à donner naissance à des enfants spirituels. Tu dis, Seigneur, il y a mon voisin que je veux voir sauver. Maintenant, Seigneur, tous les jours, 30 minutes, retour, 30 minutes. Tu sais que tu peux prier pendant 30 minutes pour ton voisin que tu veux qu'il soit sauvé. Tu peux prier pendant 30 minutes chaque jour pour le membre de ta famille qui doit être sauvé. Au lieu de te mettre en colère, au moins tu pries. Les 30 minutes là, tu es en train de réclamer. Tu dis, Satan, lâche cette âme, au nom de Jésus. Lâche mon neveu, au nom de Jésus. Lâche mon épouse, au nom de Jésus. Je brise ton pouvoir, au nom de Jésus. Vous savez, une semaine, deux semaines, trois semaines, à un certain moment, tu vas entendre, même si ce n'est pas toi qui vas lui parler de Jésus, mais tu entendras des résultats. J'ai rencontré quelqu'un dans le métro qui m'a donné un Nouveau Testament. Tout ça, c'est le résultat du travail spirituel. Qui a compris? Je disais, qui a compris? Mais si tu passes tout ton temps à traiter ton mari comme un diable, un démon. Oh non, mon mari, c'est un démon. Mon ami, c'est le diable lui-même. Qui t'a dit que c'est le diable? Réclame-le par la foi. Réclame tes enfants par la foi. Dis-lui, Satan, tu n'as pas de pouvoir. Tu dois arrêter. Je brise ton pouvoir dans leur vie. Tu travailles, frères et sœurs, un travail ici dans l'esprit. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu cherche des hommes et des femmes qui se tiendront devant la brèche pour travailler. Dieu cherche des travailleurs spirituels. Avant qu'on voit des résultats dans le naturel, il faut d'abord les travailler dans le monde spirituel. Ça se passe dans la prière. Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire merci Seigneur? Alléluia. Quelqu'un peut dire merci Seigneur? Alléluia. L'avant-dernier verset, Proverbe 13, verset 11. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, la richesse mal acquise diminue, mais c'est lui qui amasse peu à peu l'augmente. Ça veut dire que celui qui travaille petit à petit finira par l'augmenter. Mais une richesse mal acquise, ça diminue. Qui est là?
Amen.
Qui est là?
Amen.
Mais celui qui travaille petit à petit. Vous savez, actuellement, nous vivons dans un monde, les gens veulent voir directement des gros lots tomber. Boum! Alléluia. Vous avez appris que paraît-il que les gens, les grands joueurs de loto, tous qui gagnent le loto, paraît-il qu'au bout de quelques années, ils ont regardé qu'ils sont pauvres. Ils ont gagné 13 millions, 15 millions, mais au bout de quelques années, ils deviennent plus pauvres. Frères et sœurs, compte sur la bénédiction de Dieu. Mets Dieu comme associé dans ce que tu fais. Associe Dieu dans ton travail, tu verras la gloire de Dieu. Sois propre dans ce que tu fais. Prie avant de faire tes affaires. Prie. Prie, je prie avec des gens. Je prie avec des gens maintenant qui sont bénis. Des personnes qui étaient de nulle part. Il dit, pasteur, je viens de gagner 1 million. Je dis, hé, tu as gagné 1 million. Il dit, oui, pasteur. Mais c'est quelqu'un qui n'avait rien. Mais il a écouté les conseils. Je dis, go par la foi. Fonce par la foi. Ne recule pas. Ne regardez pas que parce que tu as joué une fois et puis tu penses que ton. Non, foncez. Va. Frères et sœurs, Dieu va bénir ton énergie. Dieu va bénir ta foi. Lisons dans Proverbe. Oh, je disais que je vais donner des versets, Seigneur Jésus. Proverbe 18, verset 9. Et puis Proverbe 19, verset 15. Et puis on finira par Proverbe 28, verset 18. Verset 19 plutôt. Et tu peux les aligner. Proverbe d'abord 18, verset 9. Et puis Proverbe 19, verset 15. Et puis Proverbe 28, verset 19. Allez-y. Proverbe 18, verset 9. La Bible dit ceci. Celui qui se relâche dans son travail est le frère de celui qui fait quoi? Vous voyez? La Bible dit celui qui se relâche dans son travail, il est le frère. Il est le jumeau. La jumelle de celui. Regardez-moi. Se relâcher dans le travail, que ce soit dans le ministère, vous savez, la plupart des gens qui disent, oh non, mais moi, je ne veux plus faire de ministère. La Bible dit, Dieu t'appelle, tu es le frère de celui qui fait quoi? Qui détruit. Quand on te donne un ministère, tu dois savoir que tu dois travailler pour voir le ministère grandir. Vous savez, beaucoup de personnes dans les églises, oh, ici, on ne donne pas le travail aux gens, on ne donne pas. Mais combien de personnes qui ont reçu du travail, quand on lui donne le travail, quelques minutes après, quelques mois après, il est en feu. Troisième mois, quatrième mois, tu vois, il faut commencer à l'appeler. Est-ce que tu seras là? Voyez pourquoi les églises parfois n'évoluent pas. La personne prend le ministère rapidement, mais à un certain moment, il est un sans-foutiste. Et ils veulent que le pasteur accepte. Alléluia, tu sais, frère. Non, non, oui, parce que dans une entreprise, on ne te laissera pas faire. Et dans l'œuvre de Dieu, nous voulons des personnes tough, des personnes qui bossent. Tu ne fais pas bien ce que tu es appelé à faire, on te dira, frère, on se donne la main, on n'a pas besoin de se chamailler. Assis-toi, on donne la place à quelqu'un. Moi, quelqu'un qui peut valoriser le travail, quelqu'un qui peut voir le travail de Dieu aller de l'avant. Vous savez, d'autres personnes ont dit, mais combien on me paye? Mais attends, le salaire que tu as, on t'a payé. Dieu te protège, il bénit ta famille, tu as un travail, est-ce que tu as payé pour ça? Mais à l'église, regarde-moi, les gens font le travail de Dieu d'une manière négligente. Et ils veulent que le pasteur dise Alléluia. Ça veut dire qu'ils veulent donner à Dieu ce qu'eux, ils veulent. Le pasteur ne doit pas parler. C'est pourquoi vous voyez beaucoup des églises se détruisent. Parce que les pasteurs n'ont pas de façon d'affronter les gens. Pas dans le faire de mal, mais leur dire quoi faire. Frère, une église ne peut pas progresser comme, en étant comme une république de bananes. Où les personnes font ce qu'il fait comme lui fait. Mais attends. Quand on te donne un ministère, tu dois le faire comme Dieu le veut et comme le pasteur le veut. Parce que c'est lui qui a les visions. Si tu veux aller faire n'importe quoi, va-t'en, tu peux aller quelque part, fais ce que tu veux. Bâtis et dis aux gens, venez, détruisez. Et puis tu verras les conséquences. Frère, les résultats, c'est que si quelqu'un fait le travail comme il faut, avec assiduité proprement, le dimanche prochain, je veux parler sur l'excellence. Frère, les sociétés dans ce monde, quand vous regardez comment ils sont en compétition pour donner le meilleur produit, mais sauf les églises. Sauf les églises. Les églises, les gens arrivent, ils disent, ah non, on lui dit, assis-toi ici parce qu'il faut qu'il ait l'ordre. Ah non, laisse-moi tranquille. Moi, je vais m'asseoir ici. Ce n'est pas la politesse, ça. Ce n'est pas normal, parce que ces gens-là, ils servent Dieu selon les talents que Dieu les a donnés. Respecte-le. Quand on te dit, assois-toi là. Respecte. S'il vous plaît. Et c'est ça qui fera que la gloire de Dieu va agir. Qui est là? Amen. Qui est là? Amen. Mon Dieu. Frère, si nous voulons voir notre église exploser, grandir, il faut que nous soyons disciplinés, ayons un esprit du travail. 2010, nous voulons voir plus que ce que nous avons vu. Qui le croit? Dieu bénit. Quand quelqu'un prend soin de l'œuvre de Dieu, Dieu le bénit. Dans Proverbes chapitre 19, verset 15, il dit ceci. La paresse fait tomber dans l'assouplissement et l'âme nonchalante éprouve la faim. Allez méditer cela à la maison. Donne-nous le dernier verset. 18, 19. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais c'est lui qui poursuit des choses vaines et rassasié de pauvreté. Rassasié de quoi? Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Y a-t-il quelqu'un qui peut dire un bon amen? Frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Le Seigneur veut voir ta vie progresser. Mais le Seigneur parfois te dit, il y a quelque chose que tu ignores. Mettez l'esprit de travail dans ta vie. Vous savez, l'esprit de travail, parfois tu dis, tu as des examens à faire. Eh bien, étudier. Étudier, tu ne peux pas réussir sans faire sans lire tes notes. Tu peux me dire que non, les gens m'ont bloqué. Mais est-ce que toi, tu as fait ta part, tu as révisé tes notes? Mais tu ne peux pas obtenir un papier sans travailler. Tu ne peux pas obtenir un diplôme sans donner du compétence. Ça demande du travail. Parfois, veiller. Tu dors toujours 9 heures de sommeil, mais parfois, tu dois le limiter à 7 heures de sommeil. Tu mets les 2 heures là au travail. Parce que tu es déterminé. Frères et sœurs, cette année, Dieu m'a dit qu'il veut bénir le fruit de nos mains. Mais il m'a dit, tant que les gens ne prennent pas conscience que moi, je suis un travailleur, qu'eux aussi doivent avoir l'esprit du travail dans tous les domaines de leur vie, ils ne verront pas de résultats. Frères et sœurs, Christ est mort à la croix. Quel travail! Après avoir été fouetté sur son dos qui coulait, mais il s'est laissé à la croix. Regardez le résultat. Nous sommes le fruit du travail de Christ. Nous sommes le résultat de l'œuvre de Christ. Frères, si nous voulons voir des résultats, nous devons comprendre que nous devons suivre notre grand maestro Jésus, le travailleur. Cette année, nous allons voir Dieu nous bénir dans chaque domaine de notre vie. Et l'Église est appelée à croître. La maturité va venir parce que chaque personne va travailler. J'aimerais bien que nous fermions les yeux. Si tu es dans la salle, mais toi, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Tu aimerais bien que Jésus-Christ, le grand travailleur, que Jésus-Christ te pardonne, que Jésus-Christ prenne la direction de ta vie. Tout ce qu'il te faut, c'est de lever seulement la main en disant, « Pasteur, prie pour moi, je veux recevoir le salut. Je veux que Jésus me sauve. Je veux que Jésus me pardonne. » Si tu es dans la salle, tu aimerais bien que Jésus vienne dans ton cœur. Lève seulement la main, je vais prier pour toi. Au moment où les yeux sont fermés, merci. Si tu as déjà accepté Jésus une fois, c'est une seule fois qu'on accepte Jésus. Pas deux fois. Si toi, tu n'as jamais fait la prière pour accepter Jésus, tu n'as jamais dit à Jésus, viens dans ma vie par la prière. Lève la main, je vais prier pour toi. Jésus-Christ est ici. En levant la main, tu dis, pasteur, prie pour moi. Je veux que Jésus-Christ prenne la direction de ma vie, qu'il prenne le contrôle de ma vie, qu'il puisse diriger ma vie. Je veux qu'il me pardonne de tous mes péchés. Si tu es là dans la salle, toi, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Tu peux seulement lever la main. Parfois, tu veux lever la main, même ceux qui sont sur le balcon, suivez bien. Parfois, tu veux lever la main, mais il y a une voix qui te dit, non, ne lève pas ta main. Qu'est-ce que les gens diront? Quand tu entends cette voix, c'est Satan exactement qui veut te bloquer. Lève ta main, tu dis, Satan, je te défie, je lève ma main. Aujourd'hui, je vais changer de famille, je vais changer de royaume. En levant la main, tu dis merci à Jésus. Alléluia. Jésus-Christ a dit, je suis à la porte et je frappe. Quiconque entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Mais quiconque aura honte de moi devant des hommes, moi aussi j'aurai honte de lui devant Dieu et les anges. Alléluia. Que le nom de Jésus soit béni. Que le nom de Jésus soit béni. Que le nom de Jésus soit béni. Que son nom soit béni. Y a-t-il quelqu'un qui aimerait bien dire oui à Jésus? Qui aimerait bien dire à Jésus, viens dans ma vie. Suis-je presque chaque personne a déjà donné sa vie à Jésus. Alors que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Lève-nous tous ensemble là où nous sommes. Lève-nous tous ensemble. Lève-nous tous ensemble, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble?
Nous vous remercions d'avoir écouté ce message. Pour plus d'informations, vous pouvez nous contacter au 514-931-2954 ou nous visiter sur Internet au www.christenaction.com.